Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup à l'Université de Caen pour son accueil et au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour son invitation aujourd'hui. Alors effectivement, Caroline Krasinski ne pouvait pas venir aujourd'hui et je suis là pour l'en excuser. Mais nous avons beaucoup d'intérêt à partager avec l'ensemble des acteurs de la formation les questions d'évolution de la fonction publique, les enjeux du numérique notamment. Pas plus tard que la semaine dernière, nous étions à Lyon, en plein cœur de la semaine de l'innovation publique, où le président de la République a prononcé un discours sur la fonction publique, et discours dans lequel l'innovation avait une place toute particulière, vous vous en doutez, avec des attentes fortes vis-à-vis des usagers, mais également à l'attention des agents publics. À l'occasion de cette semaine de l'innovation et du déplacement du président, nous avons aussi organisé des ateliers, un peu comme vous allez le faire aujourd'hui. Kevin Goliard, qui est avec moi aujourd'hui, va pouvoir participer et observer un peu les ateliers que vous avez décidé de mettre en place avec des professionnels de la formation tout au long de la vie. Le choix que nous avons fait pour travailler sur l'innovation et le numérique et sous forme d'ateliers a été de solliciter des agents de la fonction publique pour les faire travailler sur des sujets innovants. Alors évidemment, le numérique n'est pas le sujet exclusif d'innovation publique, mais il a une part importante, que ce soit en outils comme objet d'échange aussi avec les usagers. Je vais très brièvement débuter cette présentation par quelques chiffres clés sur la fonction publique, mais que vous connaissez pour la plupart. Je ne vais pas trop m'y attarder pour rentrer plus rapidement dans le cœur du sujet. Alors, les chiffres clés, vous les connaissez, hein, c'est plus de 5 millions d'agents publics, avec 43% dans la fonction publique de l'État, 35% dans la fonction publique territoriale et 21% dans la fonction publique hospitalière. Les questions du numérique, évidemment, elles concernent l'ensemble des fonctions publiques à des niveaux différents et avec des niveaux de portage aussi qui sont liés à l'échelle des employeurs. Les concours qui sont réalisés, c'était en 2013 28 000 recrutements dans la fonction publique d'État. C'était 34 000 recrutements dans la fonction publique territoriale. Et une question qui peut nous intéresser aujourd'hui sur la question du numérique et sur les conditions d'accès dans la fonction publique, c'est l'évolution des modes de sélection dans les concours. Depuis une dizaine d'années, avec une revue du contenu des concours, on tend à professionnaliser les modes d'accès à la fonction publique. Vous avez tous beaucoup entendu le débat très symbolique autour des questions de culture générale. Ce n'est qu'un aspect qui a énormément attiré l'attention, évidemment, des médias et de l'ensemble des acteurs publics. Mais cet enjeu-là, il est révélateur d'une volonté de choisir les candidats au regard des compétences et de leur potentiel, plus qu'au regard d'un socle plus ou moins partagé de connaissances générales qui ne garantissent pas l'adéquation entre la compétence de l'agent, son aptitude à exercer des fonctions à venir et le besoin de l'employeur public. Si je l'évoque ici, c'est que sur les métiers liés au numérique, cela a une résonance toute particulière. Et dans les concours que nous avons bâtis, notamment sur les ingénieurs, sur les systèmes d'information et de communication, nous avons donné une place très importante aux compétences acquises des agents et à leur expérience professionnelle, et pas uniquement au niveau des concours internes et troisième concours. Mais je vais passer d'ores et déjà au contenu de l'objet du jour. C'est c'est tout l'enjeu de l'évolution que représente le numérique. Vous parliez effectivement soit de transition numérique, soit de révolution. C'est vrai que c'est sans doute un peu les deux. La transition, elle est engagée depuis plusieurs années dans le service public. On va le voir avec quelques illustrations que j'ai choisi de vous présenter. Elle est engagée depuis plusieurs années, mais c'est vrai qu'au sein de chaque service, c'est à chaque fois une révolution dans les modes d'organisation. Il ne faut pas oublier que les agents publics, ils sont souvent recrutés, ils sont à 80% titulaires, ils sont recrutés pour 40 ans. Donc l'enjeu de l'évolution des structures à la vitesse du numérique est un enjeu de formation continue pour aider à l'adaptation des agents et du service public aux enjeux du numérique. Alors, je vais procéder en trois temps. Un premier temps sur les transformations du numérique et la fonction publique, c'est-à-dire les liens entre les transformations numériques et l'évolution de la fonction publique. Ensuite, la transformation du numérique et la formation professionnelle tout au long de la vie. Et je terminerai par un exemple qui est important, c'est le chantier qui a été mis en œuvre par le ministère de l'Intérieur et qui a été très structurant, qui mobilise énormément les outils numériques et qui a nécessité un plan de requalification important de ses agents et qui se déroule plutôt bien. Alors, pour débuter sur les transformations du numérique, je vais faire un zoom sur les nouveaux services aux usagers que vous connaissez tous. C'est important d'en rappeler certains qui sont emblématiques pour que nous ayons conscience de l'ampleur de ces changements aujourd'hui dans le service public. Ensuite, les nouveaux modes de fonctionnement internes, enfin, comment les outils numériques permettent de travailler différemment en interne. Et du coup, les nouveaux métiers, quelques nouveaux métiers de la fonction publique qui en découlent. Alors, les grands enjeux de l'évolution du numérique, c'est les commandes politiques de simplification des démarches vis-à-vis des usagers, la dématérialisation des procédures qui est aujourd'hui possible grâce au numérique. C'est être en capacité de faire face aux nouveaux usages, c'est les nouveaux moyens de communication numérique, c'est aussi les modalités d'accès à distance pour l'ensemble des agents qui peuvent avoir à se projeter sur le terrain, par exemple. C'est l'ouverture des données publiques. Alors évidemment, pas de toutes les données publiques. Vous le savez peut-être, la France a rejoint le partenariat pour un gouvernement ouvert en 2014, qui regroupe aujourd'hui 70 États. Il va y avoir une restitution à Paris avec des ministres de ces 70 États au mois de décembre. Et l'enjeu de l'ouverture des données au public a un impact considérable si on tient compte de deux aspects au moins, c'est la fiabilité, l'intégrité des données qui sont diffusées, et c'est également la conciliation avec l'enjeu de confidentialité de certaines données et également de sécurité des systèmes d'information. Alors, les nouveaux services qui sont offerts aujourd'hui aux usagers, vous les connaissez, ce sont des accès à l'information en ligne. Et je vais vous donner quelques exemples qui ont été justement présentés la semaine dernière au président de la République à Lyon, puisqu'il y a des nouveaux sites qui viennent d'être ouverts cette fin d'année, soit des sites nationaux, soit des sites locaux, des sites, des services aussi de relations avec l'administration, hein, de relations de prise de rendez-vous, de préparation de formulaires comme alternative au déplacement dans les services ou même comme alternative au téléphone. Vous êtes sans doute également utilisateur de plusieurs de ces procédures dématérialisées aujourd'hui qui ont la même valeur que les procédures matérielles préexistantes. Un premier exemple, c'est le nouveau site de l'INSEE qui a ouvert récemment l'information à l'ensemble des données d'adresse partout en France et qui a profité aussi de ces évolutions de contenu pour présenter une nouvelle structure d'accueil pour l'ensemble des usagers. Il y a tout un travail pédagogique pour accompagner l'ouverture du site et de l'ensemble des données statistiques à un public varié qui peut avoir un niveau de formation sur le numérique et sur l'utilisation des données qui peut être très très variable. Vous pouvez peut-être le voir, je ne sais pas si c'est visible à l'écran, il y a également selon les modalités du e-learning, mais je ne veux pas exagérer sur l'analogie, il y a également une présentation en ligne pour l'utilisation du site. Un autre exemple, un exemple d'une collectivité locale, c'est la ville de Paris, qui a mis en place un service à l'attention des familles qui veulent avoir recours aux services publics pour leurs enfants, les conservatoires, les crèches, les centres d'animation, et qui offre comme service aux familles la possibilité de s'inscrire, d'informer sur la participation à tel ou tel atelier ou prévenir des absences et recevoir également des facturations et les paiements en ligne. Un nouveau service aussi qui a été présenté la semaine dernière, c'est dans la fonction publique hospitalière, les Hospices civils de Lyon, qui offrent un portail usagé qui permet de s'inscrire, qui permet de gérer un compte avec également les services de facturation, les services de paiement en ligne et les informations qui sont adressées aux patients qui ont eu recours aux services des hospices civils. Un portail qui est plus connu de tout le monde, c'est impots.gouv.fr. Alors, il commence à dater, enfin, sa création commence à dater, puisque son ouverture date d'il y a plus de 10 ans, mais ça a été un véritable bouleversement pour cette administration, qui s'appelle aujourd'hui la Direction générale des finances publiques, hein, qui est née de la fusion de la Direction générale des impôts et de la Direction générale de la comptabilité publique en 2008. Donc c'était 120 000 agents environ, dont les pratiques de travail ont été complètement bouleversées avec la création des procédures dématérialisées, téléprocédures, avec une montée en charge progressive d'incitation pour les particuliers. On est passé évidemment d'abord par l'incitation à la télédéclaration et au télépaiement. Pour les entreprises, la démarche a été plus, et pour les professionnels autres que les entreprises, la démarche a été un peu plus contraignante, hein, avec des obligations de télédéclarer puis de télépayer avec des seuils. Aujourd'hui, l'ensemble des professionnels sont astreints à ces téléprocédures. Derrière ce portail, derrière ces procédures, il y a eu un bouleversement de l'organisation des services avec des milliers d'agents qui avaient des travaux de saisie, qui avaient des travaux de calcul, des contrôles de cohérence qui aujourd'hui sont complètement déportés vers l'usager, qui effectue lui-même la saisie, et ce sont les données qui sont transmises par l'usager qui sont exploitées par les systèmes d'information directement. Et donc un premier niveau de contrôle qui était exercé par les agents publics n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Le contrôle de cohérence, il est fait automatiquement, ce qui a impliqué une montée en compétences importante pour les agents. Certains d'entre eux exerçaient des fonctions d'exécution, on va dire, immédiates depuis 20 ou 30 ans, et il a fallu qu'ils basculent à l'occasion d'un plan de requalification sur des fonctions avec des exigences en termes de technicité plus élevées. Un autre exemple, et ce sera mon dernier exemple, et sur lequel je viendrai plus en détail ensuite, c'est les nouveaux services aux usagers du ministère de l'Intérieur, avec un portail usager également, et avec des téléservices très nombreux, avec peut-être un peu moins de services en ligne de stockage de données que impots.gouv.fr. Si je fais le zoom sur le stockage des données, c'est parce que je vais revenir sur les incidences en termes de métier derrière. sur l'usage des coffres forts ou des recueils de données pour le compte des utilisateurs. Ici, c'est la possibilité de réaliser un certain nombre de formalités en ligne plutôt que de se déplacer soit à la préfecture, soit dans les commissariats, et soit d'accéder à des formulaires qui pourront être adressés ensuite aux services compétents, soit de réaliser intégralement la procédure en ligne. Donc, un nombre important de services à l'usager, avec vraiment des bouleversements dans les compétences attendues et dans les organisations des services. Au cœur de l'administration elle-même, il y a des évolutions importantes, soit des services aux agents, soit certaines fonctions pour lesquelles on cherche à réduire un peu l'intervention humaine qui n'a pas forcément de plus-value immédiate, pour recentrer les agents sur des activités plus qualitatives de conseil et d'expertise. Au sein de la fonction publique, on développe le télétravail, on développe aussi l'utilisation des systèmes de communication. Alors c'est quelque chose qui n'est pas propre à la fonction publique, mais on le verra tout à l'heure, qui peut avoir des incidences particulières pour la fonction publique. On développe également les systèmes d'information tels que le système d'information des ressources humaines qui, en dépit de l'échec de l'ONP il y a quelques années, poursuit son chemin et avec une adhésion croissante des ministères. Et on développe également la gestion électronique des dossiers. Alors, quels sont les nouveaux métiers qui en découlent ? Les nouveaux métiers qui découlent de ces enjeux liés au numérique, en fait, ils proviennent de la nécessité de faire face à la croissance de la part des outils informatiques, et avec une grande diversité de ces outils qui ne sont pas toujours des créations pures, comme on l'a vu pour le portail impots.gouv.fr ou pour le portail préfecture. C'est aussi des reprises de process existants, de systèmes d'information existants, de données existantes, avec une grande complexité pour basculer dans de nouveaux systèmes. Ça implique donc une grande maîtrise des données et de leur exploitation possible. Ça implique d'être capable d'adapter les outils du numérique aux exigences du secteur public, notamment avec les questions de sécurité. Je parlais tout à l'heure des conférences dématérialisées. Ça peut avoir l'air très simple, puisque Microsoft offre ce type d'outils, par exemple. Mais l'emplacement des serveurs qui permettent de réaliser les conférences ne permet pas toujours de garantir une confidentialité. C'est pour ça que c'est pas par désir bureaucratique que la fonction publique va parfois créer des outils qui lui sont propres. C'est aussi pour s'assurer de la bonne maîtrise de la circulation des données. Et un autre enjeu, c'est accroître l'offre aux agents. Voilà, donc on est tourné évidemment vers l'usager. Le service public a d'abord vocation à servir l'usager, mais on cherche également à satisfaire les besoins des agents. Pour cela, on fait évoluer actuellement le répertoire interministériel des métiers de l'État, dans lequel on répertorie plus d'une soixantaine de nouveaux métiers, et notamment 6 nouveaux métiers qui sont directement liés au développement des technologies. Donc la présentation de l'évolution du service public et du numérique que j'ai faite va nous conduire directement à examiner quelques-uns de ces nouveaux métiers. Donc vous l'avez compris, les données et la maîtrise des données ont une importance considérable aujourd'hui, surtout avec l'ouverture d'une partie des données à la société civile. Et du coup, le métier d'explorateur de données numériques, pour avoir une bonne maîtrise, une bonne connaissance des contenus, est un métier qui est en pleine expansion. L'ouverture des données avec des serveurs parfois déconnectés, mais parfois en partie partagés, pose une contrainte forte en termes de sécurité. Et les chargés de cyberdéfense aujourd'hui occupent une place importante pour faire face à cette accélération de volonté d'ouverture des données. Les chargés de services applicatifs également, pour avoir une bonne connaissance de l'ensemble des services qui sont offerts et développer les relations avec les directions des systèmes d'information, et les animateurs de communautés. On passe d'un métier qui est souvent à l'intérieur des directions de la communication à un métier qui devient un peu plus propre de community manager et également les métiers de webmestre qui sont encore un peu différents. Alors, l'ensemble de ces évolutions font peser des contraintes fortes sur des agents qui sont parfois, pour certains d'entre eux, rentrés dans les métiers de l'informatique il y a une trentaine d'années, qui n'ont pas toujours évolué avec ces outils et qu'on doit conduire à faire évoluer leur comportement. D'où une importance fondamentale de la formation tout au long de la vie. Alors, la formation tout au long de la vie et le numérique, c'est une exigence dans les priorités de formation pour l'ensemble des agents publics. On utilise aussi le e-learning pour y parvenir et pour toucher plus rapidement un maximum de personnes. Et les universités vont évidemment avoir un rôle important pour la conduite de ce changement. Alors, pour la formation tout au long de la vie, dans les axes stratégiques de la formation dans la fonction publique, c'est une priorité qui apparaît dans les plans de formation interministériels et ministériels, tels qu'ils apparaissent dans une circulaire de cette fin d'année sur les priorités de formation interministérielle, que ce soit pour développer la culture du numérique ou pour faire évoluer les pratiques et avoir la capacité d'appréhender l'ensemble des opportunités des systèmes d'information dans l'environnement de travail des agents. On passe par les méthodes classiques de formation, mais on passe aussi par le e-learning qui ne présente pas forcément toujours d'intérêt de coût, contrairement à ce qu'on peut parfois immédiatement penser, mais qui permet de toucher rapidement énormément d'agents. Vous le savez, c'est quelque chose qui est manipulé avec précaution, puisqu'on doit faire attention à trouver un bon équilibre avec le présentiel pour ne pas couper l'agent des systèmes traditionnels de formation qui permettent de garantir la bonne compréhension des enjeux tout au long de la formation. Et le rôle des universités, il va avoir tendance à s'accroître dans la formation des agents, et au moins à deux titres, que ce soit en formation initiale. Aujourd'hui déjà, des écoles de formation professionnelle sont en partenariat avec des universités pour permettre aux agents qui sont en formation de valoriser en parallèle une formation diplômante, par exemple obtenir un master en même temps que les agents suivent une formation initiale. Voilà, c'est le cas notamment dans les instituts régionaux d'administration. Ça va être le cas, c'est le cas aujourd'hui, et ça va être de plus en plus le cas en formation continue, et notamment avec le développement du compte personnel de formation qui va conduire les agents publics, tout comme dans le secteur privé, à se rapprocher des universités pour enrichir leur parcours professionnel, et notamment avec soit la validation de modules, soit la préparation de diplômes. Alors, je voulais faire un zoom, le temps passe un peu vite, mais je voulais faire un zoom quand même sur le CPF, un peu rapidement. Donc, c'est le compte personnel de formation qui va venir remplacer le DIF à compter du 1er janvier prochain. Le droit individuel à la formation a eu assez peu de répercussions dans la fonction publique, il a été assez peu mobilisé. On va étendre l'offre à l'ensemble des formations qui sont potentiellement diplômantes ou qualifiantes ou qui ont pour objet un développement de projets professionnels pour les agents, ce qui devrait normalement développer la mobilisation par l'ensemble des agents publics. Alors, évidemment, l'ensemble des acteurs de formation, les écoles de services publics notamment, vont être mobilisées, l'ensemble des fonctions publiques, les trois fonctions publiques, mais également les universités qui vont être des acteurs déterminants pour améliorer le niveau de formation continue des agents publics. Alors, pour finir, je voulais faire brièvement un petit zoom sur un exemple de chantier. C'est un chantier du ministère de l'Intérieur, le plan préfecture nouvelle génération, qui est venu proposer une nouvelle offre aux usagers que j'ai commencé à aborder tout à l'heure, avec un service de meilleure qualité. C'est vrai que les services des préfectures n'avaient pas toujours une très bonne image sur les conditions de formalité qu'elles offraient. Aujourd'hui, elles ont recours aux téléprocédures et à ce qu'on appelle des tiers de confiance, c'est-à-dire par exemple les collectivités locales, qui vont permettre d'offrir un service à l'usager plus proche, tout en maintenant une bonne information grâce au système d'information vis-à-vis des services préfectoraux. Pour réaliser cette bascule, il a fallu mettre en œuvre un plan de requalification des personnels, pour à la fois pour ceux qui étaient sur les métiers qui aujourd'hui ne sont plus exercés dans les mêmes conditions, et pour ceux qui développent une activité plutôt de contrôle et de contrôle a posteriori. Donc l'ensemble des personnels visés doivent être formés avec des modules spécifiques qui ont été créés. Nombre d'entre eux ont été créés en e-learning, ce qui a permis de couvrir beaucoup d'agents dans un temps assez limité. C'est des modules sur rappeler un peu c'est quoi être fonctionnaire, ce qui n'est pas inutile pour des agents qui parfois étaient depuis plusieurs dizaines d'années un peu éloignés de la formation, depuis leur formation initiale. C'est un diagnostic qui a été dressé par le ministère. Qu'est-ce que la gestion de budget, de l'achat, l'exécution de dépenses, le droit qui est appliqué aux préfectures, et avec une possibilité de faire valoir à ces différentes étapes le niveau de formation qui a été acquis par l'agent. Le ministère de l'Intérieur a constaté un très beau succès de cette démarche. 207 ateliers ont été ouverts sur 200 sites. Les huit formations que j'évoquais à l'instant, qui s'appellent les indispensables, ont été suivies par plus de 3000 agents. Et un autre aspect important, la plateforme pour les aides à concours a suscité l'intérêt de plus de 7000 agents qui se sont inscrits. Alors, le ministère de l'Intérieur fait déjà l'analyse de cette réussite et des conditions de cette réussite avec une mobilisation de l'ensemble de l'encadrement au niveau local ou au niveau central, avec notamment un soutien indéfectible du secrétaire général du ministère. Un dialogue social long mais réussi sur le sujet avec des organisations syndicales qui se sont beaucoup impliquées et qui ont été exigeantes sur le niveau de formation qui serait offert aux agents. Les agents eux-mêmes ont reconnu la qualité des modules services proposés, ce qui a permis de diffuser une perception positive de l'offre qui leur était proposée. Et surtout, je le disais tout à l'heure par rapport au e-learning, une bonne articulation entre des formations en présentiel et des formations en distanciel. Voilà, donc c'est un peu un modèle sur lequel on va avoir à travailler dans les prochaines années pour accompagner d'autres administrations également. La DGAFP se positionne en partage des bonnes pratiques, porte à la connaissance de l'ensemble des ministères les projets qui ont été élaborés par les uns et les autres, les points un peu de difficultés qui ont été rencontrés et les réussites également. C'est aussi dans ce contexte qu'on sera ravis de regarder un peu comment vous travaillez entre professionnels sur la construction de formation avec les enjeux de numérique pour capitaliser un peu ces expériences et les faire connaître. Voilà, j'en ai fini avec la présentation. On est à votre disposition maintenant avec Kevin pour répondre à vos questions.
Oui, bonjour. Donc, Anne Aubert, Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Je trouve que tout ce qui est mis en place au niveau de la fonction publique est vraiment très intéressant et je vous remercie de la clarté de votre présentation et de la qualité des exemples que vous nous avez présentés. On essaye effectivement d'accompagner, nous aussi dans notre ministère, les collègues à la montée en compétences et à l'appropriation justement de ces nouveaux outils. Et souvent on est confronté à un questionnement, alors je ne sais pas si vous avez la réponse, mais en tout cas nous on nous questionne souvent là-dessus, c'est que certes ces formations apportent un mieux-être, on va dire, sur le poste, mais ce que nous demandent notamment nos catégories C, nos catégories B, c'est et maintenant, c'est-à-dire je suis montée en compétences, je suis capable de faire beaucoup plus de choses, je me suis adaptée, et comment est-ce que je fais pour valoriser cette expérience et cette montée en compétences dans le cadre de ma progression de carrière. Et là, souvent, on est un peu bloqué. C'est-à-dire qu'on leur dit, bon, super, tu es monté en compétences, mais voilà. Alors, est-ce que... Parce que c'est aussi quelque chose que nous renvoient les entreprises, mais on le vit aussi, nous, dans la fonction publique. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui sont envisagées pour justement permettre de valoriser ces montées en compétences en termes de progression de carrière?
Oui, alors, il y a deux aspects. Il y a la place de la valorisation de l'expérience professionnelle dans les concours et il y a la manière dont on va étendre l'accès aux concours. Donc c'est alors le premier aspect, c'est dans le cadre de la révision des concours et la place croissante que l'on donne au dossier, notamment pour le concours interne. Le dossier qui permet de valoriser des points particuliers que l'agent souhaite mettre en avant dans son expérience professionnelle, des dossiers réussis ou autres. Ce ne sont souvent pas ces dossiers à proprement parler qui sont évalués, mais ça donne lieu à un échange avec le jury qui permet à l'agent de montrer ce qu'il a réussi à faire plutôt que d'avoir un échange plus académique, plus traditionnel avec le jury. Et il y a un autre aspect. C'est, on sait qu'il y a des concentrations, on va dire, surtout au niveau des métropoles, des passages de concours pour diverses raisons. Je vais passer la parole à Kevin sur un peu l'extension que l'on veut faire de l'accès aux préparations à concours.
Bonjour à tous. La DGFP a un projet à venir, ce serait le développement notamment de formations interministérielles à distance sur les préparations à concours, notamment la création d'un centre de ressources mutualisées au niveau de la DGFP. On se rend compte que la plupart des ministères qui ont mis en place des formations à distance se concentrent essentiellement sur les préparations en concours. Donc chaque ministère organise ses propres formations à distance sur le sujet. Et donc l'idée, ça serait notamment un partage des pratiques, des connaissances et aussi une mutualisation des formations existantes pour permettre aux agents aussi les meilleures conditions à la fois de formation mais aussi de réussite aux préparations et concours et aussi avoir une équité de l'offre de formation existante en la matière.
Je crois que ça répond un peu aussi à la question qui est en train d'apparaître.
Alain. Oui, Alain Gonzalez, Université Pierre et Marie Curie et président du réseau Formation Continue à l'Université. Je pense en fait que l'évolution des métiers questionne aussi sur l'équilibre en termes de recrutement entre les fonctionnaires et je dirais un certain nombre de profils particuliers sous contrat. Et la nécessité de proposer à à ces recrutements sous contrat, bah, je dirais une progression de carrière assez, assez naturelle. Donc c'est cet équilibre-là qui aujourd'hui est un peu questionné. Alors évidemment la formation continue à l'université, c'est un champ particulier, mais je lisais il y a quelques jours les résultats d'un audit interne à l'UPMC sur on va dire le futur service universitaire de pédagogie, où on s'aperçoit que les appuis aux enseignants-chercheurs justifient d'ingénieurs très pointus sur l'accompagnement que nous n'avons pas forcément et pour lesquels la question du recrutement sous forme de concours, mais pas simplement, va être une vraie question. Donc je pense que c'est pas simplement les concours qui nous interrogent, c'est bien aussi d'aller chercher des profils pointus, particuliers, nécessaires, pas forcément issus directement de la formation initiale, mais disposant déjà d'une expérience dans le public ou dans le privé, une expérience assez pointue, et qu'il faut arriver à intégrer dans nos organisations. Et il y a un terme que vous n'avez pas évoqué, mais je pense qu'il est derrière, c'est essayer de se projeter dans une logique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui est une vraie dimension complexe dans nos établissements, mais qu'il est absolument nécessaire d'intégrer dans la démarche gestion des ressources humaines.
Oui, alors j'en profite, je vois passer des questions, je réponds rapidement à une. Quel nouveau métier à la DGAFP? Il y a notamment Community Manager, puisque nous-mêmes, on anime des réseaux et on utilise les nouveaux systèmes d'information pour animer les réseaux, mais ça implique de les faire vivre. C'est un positionnement particulier, on n'est pas en hiérarchique, hein, on est en facilitateur. On permet aux personnes membres du réseau de communiquer ensemble, de partager, sans avoir l'impression d'être sous l'œil d'une forme de tutelle ou de contrôle pour vraiment faciliter l'échange. Voilà. Donc ça, c'est un des nouveaux métiers que nous exerçons. Alors, monsieur, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que je n'ai pas abordé deux choses. Je n'ai pas abordé l'aspect corps. De la fonction publique et l'articulation concours recrutement par contrat. On travaille effectivement dessus actuellement sur la bonne définition au niveau interministériel de ce qu'on appelle à proprement parler compétences rares, puisque pour les compétences rares, même si le recrutement par concours reste le principe de recrutement de la fonction publique, il y a une possibilité de recruter par la voie du contrat. Et donc, on travaille aussi aux bonnes conditions d'attractivité de l'emploi public, que ce soit en valorisant les grands projets. Si un professionnel des systèmes d'information de la communication est intéressé par des projets d'envergure, on peut dire que impots.gouv.fr, on peut dire que le portail du ministère de l'Intérieur sont des projet d'envergure nationale qui s'adresse à un nombre d'usagers considérable. Si certains sont attirés par le service public, on va dire immédiat à l'usager plus localement, ils peuvent être attirés par les gros projets qui sont menés par les grandes collectivités locales, que ce soit les grandes villes ou les grandes communautés d'agglomération ou communautés urbaines. Voilà, donc on travaille à cette valorisation aux conditions des projets et des métiers, et également aux conditions d'attractivité. Alors parfois, on essaie de travailler sur l'ensemble des domaines. Hein. C'est-à-dire, sur les concours, c'est professionnaliser le concours, donner de la carrière aux agents publics, qu'ils soient agents titulaires ou contractuels. Ça veut dire aussi travailler au niveau interministériel et pas uniquement à l'intérieur de chaque ministère, pour dire à quoi peut ressembler un peu une carrière d'une personne qui travaille sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Comment s'assurer de... Alors, si on est du point de vue de l'employeur, de sa bonne employabilité, si on est du point de vue de l'agent, de son bon épanouissement en restant compétent à mesure que les nouvelles technologies évoluent. Et on travaille notamment sur ces questions-là avec le secrétaire général à la modernisation de l'action publique, et en particulier avec la DINSIC, justement pour améliorer ces différents leviers.
J'en profite, j'avais une petite question dans les leviers. Justement, j'avais l'impression que si on voit la formation comme la professionnalisation des concours, c'est bien. Si on voit la formation comme des éléments de progression dans les carrières, c'est bien aussi. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi insister sur la formation comme un développement personnel. Et a priori, plus l'agent va se développer, plus il va être bien dans l'idée qu'il se fait de sa fonction et de son utilité, plus il va être bien avec les autres et plus aussi il va être en montée de compétences. Et donc la question, c'était de voir qu'est-ce qu'on peut dire justement des formations qui ne sont pas nécessairement diplômantes mais qualifiantes tout simplement, et comment est-ce que ça peut s'arranger dans un parcours professionnel comme quelque chose qui n'est pas des étapes ponctuelles du parcours en disant « oui, il faut que je me forme », mais plutôt de voir quelque chose de très vertueux dans l'idée d'un processus continu. En fait, ce qui serait naturel, ce serait de se dire qu'il n'est pas possible de ne pas se former, et plutôt que d'avoir à se dire « tiens, il faut que je me forme ». Mais voilà, je ne sais pas si vous trouvez ça clair.
Juste sur la création, ou plutôt la mise en place de comptes personnels de formation dans la fonction publique, comme vous le savez, le CPF est entré en vigueur pour les salariés de droit privé depuis le 1er janvier 2015, et nous menons actuellement des travaux pour son entrée en vigueur dans la fonction publique et pour l'ensemble des agents publics, contractuels et agents titulaires, au 1er janvier 2017. Le CPF va se distinguer relativement fortement du DIF aujourd'hui pour justement permettre aux agents de mener à bien un projet d'évolution professionnelle. Et ce projet d'évolution professionnelle pouvant s'inscrire à la fois pour une reconversion professionnelle dans la fonction publique, au sein de son administration, au sein de son versant de la fonction publique, au sein d'un autre versant de la fonction publique, mais aussi pour engager une mobilité professionnelle et même une reconversion professionnelle dans le secteur privé. Et aujourd'hui, le DIF, c'était son ambition lors de sa mise en place en 2007, sauf que il y a eu plusieurs obstacles qui n'ont pas permis de rendre effectif cette possibilité. Et justement, notre volonté, c'est que demain, le CPF soit mobilisable à l'initiative de l'agent pour un projet d'évolution professionnelle, personnelle, choisi, et notamment avec des conditions d'accès différentes que celles du DIF, des droits supplémentaires et des modalités de mobilisation plus attractif pour les agents que ne peut l'être aujourd'hui le DIF. Je sais pas si vous voulez compléter.
Non, c'est ça, non, mais ça répond complètement à cet enjeu de rendre la formation vraiment comme un élément incontournable permanent dans la vie professionnelle de l'agent, et que ce soit vraiment pour s'améliorer sur son métier au-delà de ce que lui demande son employeur pour les fonctions immédiates qu'il doit exercer, mais voilà, par rapport à la manière dont il se projette aussi dans l'avenir.
Et comme disait tout à l'heure Patricia Arnaud, dans l'académie, quand on en parlera.
Tout à fait.
Comme disait tout à l'heure Patricia Arnaud dans l'introduction, c'est des domaines sur lesquels on aura gagné quand on en parlera plus. Bon, alors, d'autres questions? On a encore 5 bonnes minutes.
Je reviens un petit instant sur le CPF fonction publique, parce que bon, service formation continue, le CPF non fonction publique, on a été payé pour voir. J'ai une question, est-ce qu'on va aller sur l'idée aussi de liste de certifications éligibles? Qui les élabore? J'espère que ça va être nous. Et juste troisième question, les aspects financiers, est-ce que effectivement, ce qui est une question qu'on peut se poser dans le cadre du DIF fonction publique et qu'on se pose maintenant sur un CPF fonction publique, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va fixer, comme ça arrive sur les OPCA au passif, des montants de l'heure, voilà.
Alors, sur l'accès aux formations éligibles, nous avons fait le choix de ne pas élaborer de liste de formations, contrairement au secteur privé où il y a 3 niveaux de liste qui sont élaborés par l'ensemble des partenaires sociaux. Dans la fonction publique, en fait, la formation choisie reposera essentiellement sur le projet d'évolution professionnelle de l'agent, c'est-à-dire que toute formation sera accessible par un agent qui est organisé au sein d'un organisme de formation publique, organisé dans un plan de formation d'un des employeurs publics ou alors organisé par un organisme de formation du secteur privé, dès lors que cette formation, en fait, répond à l'objectif du projet d'évolution professionnelle de l'agent pour une mobilité, pour une reconversion professionnelle. Donc nous n'aurons pas de liste. On souhaitait justement s'écarter du DIF aujourd'hui avec une interprétation restrictive de l'accès à la formation avec le droit individuel à la formation, où la formation dans certains versants de la fonction publique devait être inscrite obligatoirement au plan de formation de l'employeur. Ce qui ne sera pas le cas demain avec le compte personnel de formation, d'où en fait un large champ des formations accessibles. Sur l'aspect financier.
Mais sur l'aspect financier, donc on est en train de travailler dessus, à quelque chose de simple en fait vis-à-vis de l'agent. On travaille sur le principe de la formation est payée par l'employeur. Et à ce stade, on est sur l'employeur entendu de manière globale, c'est-à-dire l'employeur public. Pour éviter de partir dans des considérations inatteignables d'un point de vue financier, on travaille aussi à des éléments de cadrage pour donner des éléments de coûts de formation pour éviter que les agents partent systématiquement sur des financements qui viendraient absorber l'intégralité des budgets de formation ou qui conduiraient à des refus systématiques. Voilà. Donc des éléments de cadrage qui permettent de faciliter et de s'assurer que l'agent puisse bien partir en formation avec une information claire sur ce qu'il peut regarder ou ce qu'il vaut mieux qu'il ne regarde pas. Il y avait une petite remarque sur est-ce que l'idée d'innovation est compatible avec l'idée de service public. Alors, j'ai dû rater une partie de ma présentation, ou la personne est arrivée après, j'en sais rien. Quand on voit ce qui a été fait par la DGFiP, qui elle-même était en mouvement très important pour que ce soit relativement transparent pour l'usager, quand on voit qu'elle stocke des données et qu'elle l'a fait en fait plusieurs années avant bon nombre d'établissements bancaires, donc elle est sur une offre importante de questions-réponses, de réponses en ligne avec des boîtes aux lettres fonctionnelles. Maintenant, on n'attend plus, on n'a plus besoin de faire la queue. Enfin, si on souhaite toujours le faire, on peut le faire. Hein. On n'a plus besoin de faire la queue pour avoir des réponses à ces questions vis-à-vis de cette administration. Et ça fait quand même plusieurs années. Donc, on a une administration qui s'est réformée dans un temps très très rapide, de manière relativement neutre et avec une force, avec une offre de prestations quand même qui est rare, et je pense que certaines entreprises du secteur privé envient ce type d'offre de service.
Bien, une toute petite dernière, non ? Bien, alors je vous remercie. De toute façon, les discussions vont pouvoir continuer tout au long de la journée. Hein. C'est le but hein, de brasser un petit peu des gens et des réseaux différents qui vont pouvoir prendre des contacts et puis prolonger un peu tout ça. Moi, en tout cas, j'appelle de mes voeux qu'il y ait un rapprochement qui s'instaure à compter d'aujourd'hui entre la direction de la fonction publique et puis le ministère de l'enseignement supérieur. Je pense qu'on a plein d'enjeux en commun, plein de perspectives, et comme vous le disiez, on montre par là qu'on est particulièrement innovant, ce qui, de mon point de vue, est un moteur aussi dans son développement de carrière et dans l'idée qu'on se fait de son utilité, de dire que l'innovation, on la fait par nécessité, pas par contrainte. Merci encore.